Voilà, j'ai beaucoup de joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, de la joie. C'est aussi une grande responsabilité, surtout que le Seigneur a mis un sujet très particulier, et je pense très fort dans notre vie de chrétiens et de croyants chaque jour. Voilà, nous comptons sur la grâce du Seigneur pour qu'il puisse nous aider non seulement à entendre, mais surtout à vivre ce que nous allons partager ce matin. Voilà, en introduction, je voudrais revenir un petit peu sur la vie de Joseph et vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Genèse chapitre 37. Alors ça ne sera pas le texte principal de notre méditation ce matin, mais je voulais quand même relire avec vous quelques versets pour que vous puissiez vous rappeler, ou pour ceux qui ne connaissent pas ces textes, découvrir combien Joseph a été l'objet de la part de ses propres frères, de beaucoup de maux. Et surtout, ce que nous allons voir, c'est comment il a su entrer pleinement dans la grâce du pardon. Parce que c'est le thème qui va nous intéresser. Regardez, je vais vraiment survoler, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas le texte ou ceux qui ont besoin de le relire, vous le relirez chez vous tranquillement, mais c'est juste quelques versets pour justement zoomer cette question du mal et du tort dont a été l'objet Joseph. 37, verset 4, il est dit ceci: « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Regardez verset 5, « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. » Verset 8, ses frères lui dirent: « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Un peu plus loin, verset 11, « Ses frères eurent de l'envie contre lui. » Si vous regardez le verset 18, « Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » Si vous regardez verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Regardez verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Voilà, nous arrêtons là. C'était juste pour que nous survolions et nous nous rappelions quel degré de méchanceté Joseph a été l'objet dans sa propre vie, par ses propres frères. Et malgré tout ce mal et malgré tous ces torts qu'il a reçus dans sa vie, nous voyons que Joseph a su entrer au cours des années, pleinement dans la grâce du pardon. Bien des années après beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices, parce que si vous continuez à lire l'histoire, vous verrez les autres moments difficiles et très injustes de la vie de Joseph, les temps qu'il passera en prison, bien des années après, Joseph va être placé d'une manière tout à fait providentiel à la tête de l'Égypte, il sera second après Pharaon, et là aussi d'une manière très providentielle, ses frères vont venir vers lui, ne vont pas le reconnaître dans un premier temps, mais ils vont revenir vers lui. Et je voudrais insister sur un aspect, si vous relisez ces textes, si on les lit, si on les relit, on peut faire attention que tous les événements qui vont se passer à partir du moment où les frères arrivent devant Joseph, peut être considéré, si on le lit un petit peu rapidement, comme une soif de vengeance dans le cœur de Joseph. Il n'en est rien. Joseph est loin d'être animé de rancœur, mais il met, pour un temps, ses frères à l'épreuve. Il a besoin de comprendre dans quel état d'esprit ils sont bien des années après. C'est un temps d'épreuve. Et on pourrait penser, c'est vrai que quand on le voit faire repartir les frères, enfin vous avez toutes ces scènes que je vous invite à relire, on pourrait penser que voilà, cherche un peu à rendre la monnaie de la pièce, on peut penser que la plaie est encore béante et suintante dans son cœur. Il n'en est rien. Ces temps sont des temps d'épreuve pour que les frères puissent sonder également leur cœur et permettre de prendre conscience de leurs mauvaises actions. Mais si on regarde bien, on n'a pas le temps aujourd'hui, ce n'est pas le thème, vous verrez que Joseph, à l'égard de ses frères, a beaucoup de bienfaisance dans sa vie. Et c'est ainsi que, lorsque Joseph va se révéler véritablement à ses frères, nous voyons combien son cœur, et c'est ça notre message ce matin, nous voyons combien son cœur a depuis longtemps emprunté, connu le chemin de la libération intérieure. Son attitude prouve qu'il est loin pour lui le temps de la rancœur, qu'il est loin pour lui ce temps de l'incompréhension, de l'amertume. Certainement les premières minutes, tout ce qu'il a pu vivre, ont été des tensions en lui. Peut-être qu'à un certain moment donné, il a eu aussi cette soif de se venger. Mais au moment où il se révèle à ses frères, tout cela est bien loin derrière lui. Il est tellement loin devant qu'il comprend même que Dieu avait servi à dessein le mal de ses frères. Regardez au chapitre 50, verset 19. Combien je vous encourage à relire ces textes pour vous exhorter dans cette vie, parce que vous savez, la vie de Joseph, c'est un type de la vie de Christ. Et lorsqu'on a lu qu'il l'avait vendu pour quelques pièces, nous avons de suite pensé à ce que Judas a fait pour Jésus-Christ. Mais comprendre que Joseph était rentré pleinement dans le pardon, Genèse 50, on peut lire au verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Vous savez, ils avaient des raisons d'avoir peur de Joseph quand ils ont tout compris qu'il était devenu et le tort qu'ils avaient fait à Joseph. Et le pouvoir qu'avait Joseph à ce moment-là, c'était pratiquement un pouvoir de vie ou de mort sur ses frères. Et s'il avait voulu se venger, je peux vous dire que les scènes auraient été très différentes que celles qui ont été écrites et vécues. Joseph leur dit, soyez sans crainte. « Car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Quelle œuvre ! Magnifique, désolé de l'avoir survolé, surtout pour vous qui peut-être ne connaissez pas les textes, mais quelle œuvre magnifique de notre Seigneur, d'un homme qui dans un temps dans sa vie a été passé au crible par ses frères, il a été malmené, haï, on a voulu le faire mourir, il ne pouvait même plus lui parler, converser, ses propres frères, ce qu'il côtoyait tous les jours, tant de haine, de mépris, jusqu'à vouloir le faire mourir. Et bien des années après, alors que Dieu l'a consolé dans son cœur, alors que Dieu l'a amené sur une véritable chemin du pardon tel que nous le partagerons, il peut non seulement se présenter en homme libre, mais il peut aussi libérer les autres. Quel drame aujourd'hui dans les vies, dans les foyers, dans les familles, au travail, tout autour de nous. Et malheureusement, même dans l'Église, quel drame, quand nous n'avons pas laissé le pardon de Dieu libérer nos cœurs, lorsque nous sommes enfermés, non pas un jour, une semaine, parfois des années, des dizaines d'années, dans l'amertume, dans cette prison d'amertume, dans cette prison de soif, de vengeance et de rancœur telle qu'elles étaient les frères, non seulement prisonniers, mais aussi faisant souffrir les autres, à l'exemple des frères de Joseph. Et je suis triste de voir comment, même dans la maison de Dieu parfois, les chrétiens ne cessent de se blesser les uns les autres, parce qu'ils sont enfermés dans cette prison de la rancœur et de l'amertume. Il y a bien des années de cela, quand je discutais avec certaines personnes, je n'arrivais pas à comprendre, lorsqu'ils me parlaient de véritables souffrances, de drames qu'ils avaient vécu dans leur vie, alors qu'il me parlait de choses qui avaient lieu il y a 10, 15, 20, 30 ans parfois, j'avais l'impression que c'était la veille. Des plaies saignantes. Et je ne comprenais pas, c'est quelque chose que... Et depuis, j'ai réalisé que ces hommes et ces femmes n'étaient pas pleinement rentrés dans le chemin du pardon de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, dans certaines communautés, parce que nous n'avons pas appliqué tout simplement les préceptes de l'Éternel, il y a aussi ces tensions, ces divisions, ces rancœurs, et nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide les uns et les autres à comprendre que le pardon de Dieu, et c'est le titre de mon message ce matin, le pardon de Dieu est une source de libération. J'ai parlé de Joseph, mais nous pouvons prendre l'exemple de Christ à la croix du calvaire. Qui peut minimiser, qui peut comparer même ses propres souffrances avec ces souffrances terribles que Jésus-Christ a acceptées? Qui peut soutenir, qui peut comprendre, qui peut réaliser un crime aussi affreux tel que Jésus l'a vécu? Toute cette haine, ces envies de meurtre, toutes ces humiliations, peut-on même imaginer supporter de faire souffrir un animal comme on a fait souffrir Jésus? Et pourtant, Christ n'est pas tombé dans le piège de la spirale de la haine. Et tout comme Joseph était libre vis-à-vis de ses frères, tout comme son cœur était libre, ayant reçu le pardon de Dieu dans sa vie, Jésus nous a montré combien il était libre face à la haine des hommes. Vous rendez-vous compte? Il avait pouvoir à tout moment donné de leur enlever la vie. C'est-à-dire que ces hommes qui le menaçaient, ces hommes qui le haïssaient, ces hommes qui parlaient mal contre lui, ne pouvaient le faire que parce que Jésus leur en donnait le pouvoir. Mais Jésus était libre dans son cœur, à tel point que sur la croix, il fait cette prière qui retentit pour nous encore aujourd'hui et qui doit être au centre de nos rencontres. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans Luc chapitre 23, verset 24. Quelle œuvre merveilleuse, magnifique du Seigneur, qui inverse cette spirale de la haine et qui transforme, comme dans la vie de Joseph, qui prend le mal pour en faire un bien. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé dans Romains chapitre 5, verset 20. Cette immense tragédie de la croix, elle est devenue le don le plus excellent de l'humanité, le don de salut pour tous les hommes. Alléluia. Je vais le dire maintenant parce que je me connais, quand je suis sur une pensée précise, je ne suis pas très équilibré. Je voudrais dire quelque chose d'important. Je ne veux pas, par ces propos que nous partageons ce matin, minimiser les souffrances diverses et variées que l'on peut connaître dans notre vie. Il y a des souffrances terribles et en vous invitant à rentrer dans le pardon de Dieu, dans cette source de libération, je ne voudrais pas minimiser toutes ces souffrances que vous pourriez avoir vécues dans votre vie. Il y a différents degrés. Et vous savez, on ne passe pas d'un état où on a été meurtri comme l'a été Joseph, à un état de considérer que finalement tout était bien par rapport au plan de Dieu dans sa vie. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et je pense que suivant même le degré de ce tort qu'on a pu vivre, il faut du temps parfois, il faut l'accepter. Il y a comme des étapes, comme un processus dans notre vie. La première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître, regarder en face le tort. On peut pas, le chemin du pardon, c'est pas dire c'est pas grave. Non, nous devons regarder en face le tort. Le pardon, ce n'est pas donner un blanc-seing à celui qui nous a fait du tort pour lui dire c'est rien. Non, d'abord je dois le regarder en face, ce tort. Je dois le considérer. Et ensuite, il y a comme tout un processus plus ou moins long, compliqué. La deuxième étape, peut-être, c'est décider dans notre cœur, surtout nous en tant que croyants, de renoncer à la vengeance. Et je crois que Joseph avait un cœur si proche de l'Éternel que c'est cette décision qui lui a permis d'avancer. Deuxième étape, renoncer à la vengeance. Peut-être autre étape aussi, on pourrait dire, laisser le temps. Laissez le temps à l'apaisement intérieur, cette colère, ces mouvements humains qui sont là, laissez le temps à l'apaisement intérieur. Et peut-être une autre étape, essayez de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est une étape intéressante parce que nous pouvons aussi regarder les torts que nous pouvons avoir aussi dans telle ou telle affaire. Déjà, on grandit dans ce processus et peut-être que nous pouvons aussi essayer d'en tirer les leçons positives parce que Dieu transforme le mal pour en faire du bien. Et peut-être discerner quel est le plan de Dieu dans ma vie. Et je dirais le summum de ce processus, c'est de chercher le bien de l'offenseur, tel que Joseph l'a fait à l'égard de ses frères, tel que Jésus l'a fait sur la croix du calvaire, en portant nos péchés. Voulons-nous connaître, voulons-nous vivre en tant que croyants chaque jour de notre vie, le pardon de Dieu comme une source de libération. C'était que l'introduction. Alors, je vais vous inviter à lire un texte avec moi dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, verset 21, ce texte que nous allons lire ensemble, va servir de trame, de plan, à notre message en trois parties ce matin. Lisons-le, je sais que beaucoup le connaissent, peut-être certains pourraient le réciter par cœur, nous connaissons le début, la fin, on a souvent entendu prêcher sur ce texte, mais essayons, le mieux possible, de le lire un peu comme si nous le lisions pour la première fois. Matthieu 18, verset 21, « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Le roi, dans cette parabole, c'est Dieu. Le débiteur, ce serviteur insolvable, c'est nous tous, les hommes. La dette énorme, eh bien, c'est nos péchés, sans nombre. La dette légère de ce compagnon vis-à-vis du serviteur, eh bien, ce sont toutes ces offenses que nous pouvons vivre dans notre vie à notre égard. Et je voudrais dire, je n'ai pas converti les talents et les deniers, mais il faut comprendre que la proportion entre la dette du méchant serviteur par rapport à celle de son compagnon, c'est à peu près 1 pour 3 millions. Vous voyez un petit peu la différence. Ce qui signifie que lorsque le compagnon a, vis-à-vis du roi, le compagnon a une dette d'un jour de travail, si on voulait le ramener à un jour de travail, le méchant serviteur, lui, a à l'égard de son roi une dette de 8 219 années de travail, sans jour de repos ni de congé. Vous voyez un petit peu la proportion de la dette, parce que les talents et les deniers, enfin, je ne sais pas si vous les utilisez pour aller chez le boulanger, mais voilà, ça ne nous parle pas, ça nous parle pas énormément. Mais voilà, déjà un petit peu, on voit que il y a quelque chose, et c'est le premier point que je voudrais partager avec vous, que nous considérons dans cette parabole, c'est que nous avons été abondamment pardonnés. Nous avons été abondamment pardonnés. Cette somme exorbitante, c'est comme quand Jésus dit, pas cette fois, mais 70 fois cette fois, quand nous voyons cette dette immense, c'est pour que nous puissions être amenés à considérer véritablement l'immensité de la dette de tous les hommes envers le Créateur. La Bible est formelle, et qui que vous soyez ce matin, vous devez l'entendre. La Bible est formelle, tous les hommes ont péché, et sont redevables devant Dieu d'une dette dont personne ne peut s'acquitter. Mais Dieu a effacé cette dette par son Fils Jésus-Christ. Et ce matin, au travers des cantiques, au travers du repas de la Sainte Cène, nous nous sommes rappelés ce message puissant de la croix qui est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Regardez dans Romains, je ne sais pas si vous pouvez garder ce texte, voilà, un doigt dans ce texte, on y restera dans Matthieu 18, mais je voudrais vous amener dans Romains chapitre 3, on voudrait qu'on puisse lire aussi d'autres textes. Romains chapitre 3, verset 23, c'est important, peut-être que au milieu de nous, des personnes n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Peut-être que certains sont dans la réserve retenue. Vous avez besoin encore ce matin, et nous en avons tous besoin quelque part, d'entendre le message de l'Évangile. Et la Bible est claire, Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ce que signifie cette dette dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifié. Cet homme, ce serviteur, lorsqu'il a eu le bon réflexe de se jeter aux pieds du roi, de supplier et de réaliser d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière parce qu'on va approfondir cela tout à l'heure, et de réaliser qu'il a besoin du secours, que fait le roi? Il ne donne pas un sursis, le roi. Ça serait déjà bien. Le roi, il éponge la dette. Tu peux repartir totalement gracié, gratuitement. Et c'est ça le message de l'Évangile. Nous sommes tous des pécheurs sur le même pied d'égalité. La dette immense qui était sur ma vie, elle est aussi sur votre vie. Nous sommes tous égaux sur ce point-là. Mais nous sommes tous égaux aussi devant la croix pour que le sang de Jésus-Christ, comme cela nous a été rappelé, nous lave de tous nos péchés, et cela gratuitement, juste par l'effet de la foi. Je crois, Seigneur, et je reçois. Nous ne pouvons pas racheter notre dette. Elle est immense. D'ailleurs, notre dette, c'est quoi? C'est la mort. Romains chapitre 6, regardez un peu plus loin. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà peut-être une autre façon de décrire notre misérable situation d'endetté, de sur-endetté vis-à-vis du roi. La mort, elle met un terme à tout. Il n'y a rien qui puisse nous racheter de la mort. Pourtant, vous voyez, ce serviteur, il est là, Et patience, je paierai tout. On va y revenir tout à l'heure, mais quelle considération a-t-il véritablement de cette dette? Mais nous devons, et c'est pour ça que j'ai voulu relire ces versets, vous avez peut-être l'impression que c'est une réunion d'évangélisation, qu'importe, rappeler que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le don de Jésus. Spirituellement, nous sommes comme ce serviteur, exactement pareil. Nous sommes tous des pécheurs incapables de rembourser la dette, et la seule issue, c'est de se jeter aux pieds du Seigneur, implorer sa grâce, et quiconque le fait avec sincérité, ce qui prouve qu'il a été sincère, quiconque le fait reçoit assurément le pardon de Dieu. La Bible dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Ce n'est pas avec des raisonnements humains que nous pouvons comprendre la grâce, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Celui qui semble aux yeux des hommes mériter le plus la grâce de Dieu, vous savez, nous avons nos propres schémas. Celui qui toute sa vie a été un homme juste et bon, qui a voué peut-être sa vie à toutes les causes les plus nobles de la terre. Celui qui semble le plus à nos yeux mériter la faveur de Dieu, obtient la grâce au même titre que celui qui toujours aux yeux des hommes semble le plus misérable. C'est ça le message de l'Évangile. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Mais regardez ce brigand sur la croix. Ce brigand sur la croix, ce meurtrier qui se tourne vers Jésus et qui obtient le pardon de Dieu. Qui que nous soyons, nous devons réaliser que nous avons une dette immense, quelle qu'ait été notre vie, la plus noble, la plus misérable. Et seul le sang de Jésus peut nous libérer. Ça, c'était le premier point. Nous avons été abondamment pardonnés. Que le nom du Seigneur soit béni. Le deuxième point, si nous revenons à cette parabole, lorsque le maître fait rappeler ce serviteur, il dit ceci, « Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » C'est ce que nous venons de partager. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Être abondamment pardonné, c'est une grâce sans nom. On ne peut pas le décrire, c'est merveilleux. Mais c'est aussi une immense responsabilité sur nos vies. Et le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est un devoir. Ne devais-tu pas? Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Si nous ne faisons pas attention dans notre vie, dans notre relation les uns avec les autres, nous pouvons subir des torts. Vous savez, il y a une certaine façon de voir la vie de l'Église comme quelque chose de... J'ai l'impression qu'on anticipe la vie plus qu'excellente que nous vivrons dans le ciel avec lui. En attendant, nous sommes encore ici sur la terre. Et même si la grâce de Dieu se répand et que son Saint-Esprit agit avec puissance au milieu de nous, vous avez peut-être remarqué que nous sommes des humains et qu'on n'est pas toujours très fin dans nos rapports les uns avec les autres. Et il y a beaucoup d'occasions, ne vous inquiétez pas, pour se faire du tort, pour que des choses nous vexent, nous contrarient. Vous l'avez remarqué, non ? Non, vous ne l'avez pas trouvé dans l'Église, non, ça. Et si nous ne faisons pas attention, et que ces torts, nous ne les réglons pas, nous emmagasinons comme une liste. Vous pourriez faire un tableau, tel jour, telle heure, tac, tac, tac. Et puis, je peux vous assurer que là, on est d'excellents comptables. Ouais. L'Église, c'est une famille. Vous savez, quand on regarde même dans le monde... dans une famille lambda, Regardez un peu les tensions. C'est des gens qui sont proches, quand même, qui ont un amour très particulier entre eux. Vous avez vu les tensions qu'il y a ? Les frères, les sœurs, les enfants, les tatis, tantes. Si en plus il y a un héritage qui vient, pouf, se mettre dessus. Vous l'avez vu ? Ça vous parle ? Eh bien, l'Église, c'est la grande famille des rachetés. Et nous sommes en famille. Et il peut y avoir aussi des tensions dans la famille. Dans la famille, les relations humaines peuvent être difficiles. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Nous avons le droit d'avoir des différences. Nous avons le droit d'avoir des opinions différentes. C'est même une richesse. Regardez dans le couple. Si les deux pensent toute la même chose, d'ailleurs il faut s'inquiéter parce que si c'est comme ça, c'est qu'il y en a un plutôt qui a pris l'ascendant sur l'autre. C'est une richesse de penser différemment, d'avoir des vécus différents. Mais nous n'avons pas le droit de nous haïr. Nous devons nous aimer les uns les autres, malgré nos différences, malgré tout ce qui peut être sujet à discorde. Et s'il y a besoin, mes frères et sœurs, nous devons nous pardonner. Dans Colossiens au chapitre 3, l'apôtre Paul, ne le cherchez pas, dit ceci, écoutez, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Colossiens chapitre 3, verset 13, je vous lis un autre texte qui dit ceci. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Jésus n'a-t-il pas dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, alléluia, ce pardon obtenu par le seul fait de la foi. Nous pouvons nous aussi le vivre autour de nous. Mais pourquoi donc ce méchant serviteur a-t-il eu une telle attitude vis-à-vis de son compagnon? Comment peut-il se faire qu'ayant été pardonné, gracié, nous puissions nous comporter aussi durement à l'égard de notre prochain? Vous allez me dire, quand je le lis, moi ça ne me parle pas, donc ça va. Mais quelque part, cette parabole, si elle est là pour nous encourager à vivre le chemin du pardon, c'est que nous devons faire attention. Alors pourquoi ? C'est difficile, mais j'ai marqué quelques pistes de réflexion. Peut-être a-t-il oublié le pardon dont il a été l'objet. Et la réunion, je vais dire, le fait que nous nous assemblions est là pour que nous puissions ensemble, et particulièrement autour du repas, mais au travers des chants, nous l'avons vu, nous rappeler sans cesse, et Michael l'a fait encore, nous rappeler ces textes où le Seigneur Jésus nous a encouragés à prendre le pain, à boire le vin, pour ne jamais oublier. Ne jamais oublier la grâce dont nous avons été l'objet. Que l'abondance peut être de la grâce de Dieu. Ce matin, nos spirituels rappelaient qu'effectivement, Dieu nous donna en abondance, parfois jouissant des bienfaits du Seigneur, nous mettons en oubli ce qu'était notre ancienne vie. Ce matin, une sœur dans sa louange disait « Je me souviens de ce que j'étais. » Souvenez-vous du jour où le Seigneur vous a lavé, purifié. Peut-être avait-il oublié la grâce de Dieu. Je voudrais juste lire un texte parce qu'il est parlant sur ce thème-là de l'oubli. Vous savez, avant d'accorder cette grande bénédiction à Israël d'entrer dans le pays de la promesse, l'Éternel va réitérer son avertissement, mais il rejoint un peu le don spirituel que nous avons entendu. Je vous le lis pour qu'on soit rapide, je vois, je suis trop long. Quand j'ai fini de préparer, je me suis dit, je leur ai trop préparé à manger. Voilà, j'espère que vous n'avez pas des problèmes de surpoids ou d'obésité spirituelle. Ça va, que vous avez un peu de marge. Mais bon, voilà, ça c'est, on ne se refait pas. Écoutez ce texte. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde. Que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Je lis un peu plus loin. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Je vous ai lu Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 17. Peut-être ce serviteur avait-il mis en oubli. Deuxième peut-être hypothèse, est-ce que ce serviteur avait vraiment réalisé l'énormité de son péché, l'énormité de son offense vis-à-vis du roi? Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur cette dimension-là. Parfois, on pense faire partie d'une catégorie à part. Dans ma vie, voilà, je m'approche du Seigneur, je m'approche devant la croix, je demande pardon, je reçois la grâce de Dieu, mais au fond de mon cœur, je n'étais pas forcément comme les autres. Certains ont reçu la grâce de Dieu, mais ont du mal à s'identifier à l'horreur des péchés de l'humanité. Tous ont péché. Pour certains, vous savez, le fait de graduer les péchés un petit peu que nous avons dans la vie leur donne parfois le sentiment qu'ils n'ont pas autant péché que d'autres. Et que d'une certaine manière, plus ou moins consciente, je vous l'avoue, ils pensent avoir moins à se faire pardonner. Et ce sentiment peut rejaillir sur les autres. Jésus a dit ceci. Jésus a raconté une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier, non pas l'autre, qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Dans Luc chapitre 18, verset 9. Avait-il réalisé l'énormité de son offense vis-à-vis de Dieu? Et peut-être aussi, troisième hypothèse, avant d'arriver à la troisième partie de notre message, peut-être cette troisième hypothèse, avons-nous réalisé, ce serviteur avait-il pleinement réalisé qu'il a été totalement et complètement pardonné? Il dit, je paierai tout. Peut-être que cette grâce, il l'a interprétée un petit peu, vous savez, comme un sursis. Mais j'ai encore des choses à gagner, des faveurs à mériter. Certainement, peut-être la plus grande raison qui nous empêche au quotidien de manifester autour de nous le pardon inconditionnel, parce que j'ai peut-être gardé dans ma vie des choses pour lesquelles je n'ai pas laissé le Seigneur me pardonner. Peut-être des choses où j'avais besoin de prendre des victoires, ou des choses qui avaient besoin d'être guéries. Je ne les ai pas laissées au pied de la croix, mais j'ai pensé que j'y arriverais tout seul. Je n'ai pas pu le confesser, je n'ai pas pu l'avouer même à mes plus proches. Et je vis avec cela. Peut-être, c'est une hypothèse, il n'a pas réalisé totalement. C'est vrai que je comprends, la grâce de Dieu, ça a un côté un petit peu tout beau, tellement merveilleux. Mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Et cet homme était peut-être incapable de réaliser que c'était totalement gratuit. Et il a gardé des choses dans sa vie. Et peut-être que certains aussi sont dans ce schéma-là. Peut-être que ça nous conduit à de multiples efforts perpétuels dans notre vie chrétienne. Mais il a tout payé, tout payé. À nous de le recevoir. Si nous ne parvenons pas à accepter le pardon de Dieu, il nous sera difficile, voire impossible, de manifester cette grâce inconditionnelle autour de nous. Et c'est pourquoi, parfois, il y a tant de conflits et de rivalités. Les non-pardonnés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu la totalité de la grâce, les non-pardonnés, deviennent impitoyables envers les autres. Et vous savez, quand on est impitoyable vis-à-vis des autres, c'est la surenchère, puisque les autres, bien souvent, nous rendent, comme on dit, la monnaie de la pièce. Et la fameuse spirale de la haine est partie. La troisième chose que je voulais vous dire sur ce texte que nous avons lu du méchant serviteur, eh bien, c'est la conclusion terrible quand même, solennelle de la parole de Dieu, où Jésus dit ceci, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » La troisième chose que nous pouvons dire, c'est que ne pas pardonner signifie ne pas recevoir le pardon de Dieu. Alors il faut préciser quelque chose d'important, c'est que notre pardon, ce que nous allons vivre avec les autres, notre façon de remettre les dettes aux autres, elle n'est pas la cause du pardon de Dieu. Ce n'est pas parce que je pardonne aux autres, eh bien que Dieu me pardonne en conséquence. Notre pardon n'est pas la cause du pardon de Dieu, mais en est la conséquence. Et il est fondamental de considérer que le pardon de Dieu précède toujours celui de l'homme et non l'inverse. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis pardonné, non pas parce que je vais bien me comporter ou que ma vie va extérioriser ces fruits de la nouvelle essence. Je suis pardonné pourquoi ? Parce que j'ai cru. Que la foi. Il n'y a que ce moyen d'être pardonné. Notre pardon n'est pas la cause du pardon de Dieu, mais la conséquence. Et je crois que tout homme ou femme qui ont découvert l'Évangile, désireux de bénéficier de ce pardon, vont prouver la sincérité de leur démarche par leur attitude envers leur prochain. C'est d'ailleurs ce que nous prions dans le fameux Notre Père, lisons-le ensemble dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Une autre version dit ceci, « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Qui fait encore mieux le lien avec la parabole que nous avons lue tout à l'heure, mais la conclusion est la même. « Si vous ne pardonnez aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre façon de remettre les dettes, ce n'est pas notre pardon qui est la cause du pardon de Dieu. Mais en définitive, je prends Dieu à témoin et je lui dis, j'accepte d'être traité comme je traite les autres. Pas plus, pas moins. Et si vous regardez bien, le roi, eh bien, prendra ce serviteur et le traitera comme lui-même avait traité le compagnon, livré jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Nous devons bien comprendre, et je terminerai par cette pensée, nous lirons un dernier texte ensemble, que celui qui a reçu la grâce du pardon de ses péchés peut présenter dans sa vie les fruits de la nouvelle naissance et il peut placer le Seigneur juge des fruits de cette nouvelle vie. le racheté a conscience d'avoir reçu le pardon uniquement par grâce, le pardon de ses nombreux péchés, et que cette vie de grâce qu'il a dans sa vie l'amène dans un esprit de pardon envers les autres. Et ce, quelles que soient les fautes qui peuvent être commises. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. En définitive, celui qui ne pardonne pas, comme ce méchant serviteur, témoigne en définitive qu'il n'est pas sous la grâce de Dieu et qu'il n'est pas au bénéfice du pardon de Dieu, selon peut-être toutes les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Et je voudrais lire un dernier texte avec vous, c'est sûr, c'est le dernier, Luc chapitre 7. Je dis ça parce que j'en ai d'autres de marquer, alors comme ça vous me tirez l'oreille. Je m'oblige à ce que ce soit le dernier en vous le disant. Luc chapitre 7, verset 36. En fait, c'est la conscience d'avoir été pardonné, et c'est ce degré de conscience qui est important pour nous et sur lequel j'ai essayé d'insister, plus ou moins maladroitement ce matin. La conscience de savoir si on a été gracié totalement, conscience aussi de savoir si notre dette était aussi immense que les autres, voilà tous ces aspects-là. Et nous voyons dans ce texte, donc Luc chapitre 7 et au verset 36, nous lisons « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et il se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans la maison, dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux, et tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se dirent en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia, c'est sa foi qui l'a sauvée. Ce n'est pas son attitude d'amour. Ce n'est pas le fait qu'elle ait versé, qu'elle ait essuyé. Ce n'est pas tout ça qui l'a sauvée. Retenons bien ce matin que c'est la foi, uniquement la foi, qui nous donne accès au pardon de Dieu et qui nous sauve. Et pour autant, il est écrit ceci au verset 47, « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. » Alors il faut lire une autre traduction que je vous lis. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. C'est la version Semeur. Cette femme, elle a été pardonnée car elle a beaucoup aimé. Mais cette femme, elle a aimé pourquoi ? Parce qu'elle a été rentrée dans ce pardon. Cet amour n'a pas été la cause du pardon. C'est ça qui est important. Mais la conséquence, c'est le témoignage. Je dirais que c'est la partie visible de l'iceberg. Nous ne voyons pas notre vie profonde avec le Seigneur, mais notre attitude vis-à-vis de nos prochains montre que nous avons reçu le pardon de Dieu. L'atteste en définitive, mais celui qui refuse de pardonner montre ainsi qu'il n'a pas reçu cette grâce pour peut-être les diverses raisons que nous avons vues. Lui, ce pharisien, lui, il avait peu de choses, semble-t-il, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le serviteur, peu de choses à se faire pardonner. Nous avons été abondamment pardonnés. Et cela nous responsabilise, mes frères et sœurs, parce que nous devons aussi pardonner à notre tour et être vigilants. Parce que, en définitive, ne pas pardonner signifie ne pas recevoir le pardon de Dieu. Et nous voulons être prêts, comme l'a dit Michaël ce matin, pour le jour où il viendra nous chercher.